Une heure à Bamako et à Nouakchott, 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Bilan du sommet États-Unis-Afrique à Washington, réaction du ministre du Commerce nigérien et du conseiller énergie du Tchad.
Cette vision est partagée, cette volonté d'approfondir les relations américano-africaines est réaffirmée, d'autant plus qu'elle va dans les deux sens. C'est dans l'intérêt commun et de l'Afrique et des États-Unis.
Nous entendrons aussi la dernière partie de l'interview avec Macky Sall, le président de la République sénégalaise. Enfin, rubrique santé au Mali, la région de Kaï reste une poche de résistance pour la lèpre. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans le nord du Cameroun, il y a eu un nouvel accrochage entre les militaires camerounais et les islamistes de Boko Haram qui ont attaqué hier Zigag, un village frontalier avec le Nigeria. Il y a eu au moins 12 morts, dont 2 assaillants et beaucoup de dégâts matériels. Au micro de Moki Edkin Kinzeka, correspondant de La Voix de l'Amérique, écoutons le chef de l'État camerounais, Paul Biya.
On a affaire à un ennemi pervers, sans foi ni loi, qui attaque les nuits, qui égorge. Et ils ont évidemment fait des exactions. Les Camerounais doivent garder confiance. Le chef d'état-major, je l'ai envoyé là-bas pour réorganiser notre dispositif. J'ai envoyé des secours, des renforts en hommes et en matériel. Et je crois que les jours à venir montreront que nos efforts pour organiser une riposte et une défense de notre territoire sont efficaces. Je salue également nos soldats, dont certains sont tombés, qui ont fait montre de patriotisme, de bravoure, et je les encourage à aller de l'avant. Pour tous les Camerounais, je dis ceci, dans la vie d'une nation, il y a des moments difficiles. En ces moments-là, il faut faire preuve de courage, de solidarité et de patriotisme.
Paul Biya, le président du Cameroun. 2 adultes ont été condamnés jeudi à la prison à vie en Égypte et un adolescent à 20 ans pour des agressions sexuelles lors d'une manifestation. La peine de prison à vie se traduit par un maximum de 25 années de détention en Égypte. Le nouveau pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi avait promis de sévir contre les hommes auteurs d'agressions sexuelles, notamment lors de rassemblements en public. En Afrique du Sud, le procureur au procès d'Oscar Pistorius a requis une condamnation pour meurtre contre l'ancien champion paralympique. À l'issue d'un long réquisitoire, Oscar Pistorius risque jusqu'à 25 ans de prison s'il est reconnu coupable. La Cour rendra son verdict à une date ultérieure.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le chef du Pentagone en visite à New Delhi, Chuck Hagel, promet de travailler au renforcement de la coopération militaire entre les États-Unis et l'Inde. Le secrétaire d'État américain, lui, s'est rendu en Afghanistan. John Kerry devait exhorter les candidats Abdullah et Ashraf Ghani à trouver un accord sur les résultats de la présidentielle. Un audit est en cours après le second tour, mais seulement 18% des suffrages ont été revus. En Irak, les extrémistes islamistes ont conquis d'autres territoires dans le nord en s'emparant du plus grand barrage du pays et de plusieurs villes essentiellement chrétiennes. Et ils ont forcé ainsi des milliers d'habitants à s'enfuir. Michel Joseph.
Ce barrage fournit de l'eau et de l'électricité à des millions d'habitants à Mossoul, la principale ville du nord que les militants islamistes occupent depuis le 10 juin. Mais les forces kurdes disent toujours contrôler le barrage. Les djihadistes sunnites ont lancé hier une offensive nocturne près de la région semi-autonome kurde et occupé plusieurs localités, dont Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak. Des dizaines de milliers de civils ainsi que les combattants kurdes qui les protégeaient ont pris la fuite selon des ecclésiastiques de la région. Le pape François a appelé la communauté internationale à aider à mettre un terme à la tragédie humaine en Irak. La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le groupe dénommé État islamique a conquis en juin des pans entiers de l'Irak pour y déclarer un califat.
Et pour finir, des nouvelles de Edward Snowden, l'ancien contractuel de la NSA, les renseignements américains, qui a dévoilé des milliers de documents secrets des États-Unis, a obtenu un prolongement de 3 ans de son séjour en Russie. Vous écoutez La Voix de l'Amérique dans un instant. La suite de Sahel Plus, Claire Morin-Gibourg.
Retour retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Le sommet États-Unis-Afrique a pris fin hier à Washington. En marge du sommet avait lieu une conférence qui a réuni les chefs d'entreprise africains au Capitole, le siège du Congrès américain, afin de favoriser les échanges entre les investisseurs américains et les entreprises africaines. Nous y avons rencontré Amitali Muntai, il est conseiller aux mines, à l'énergie et au pétrole du Tchad.
Moi, je suis là aujourd'hui, ça veut dire que pour attirer plus d'investisseurs américains dans mon pays, surtout dans le domaine énergétique qu'on parle actuellement, parce que l'initiative Power Africa lancée par le président Obama en juin 2013 lors de sa tournée en Afrique nous intéresse énormément. Et nous sommes intéressés parce que le Tchad a beaucoup d'énergie dans le domaine solaire, éolien et même les biomasses et le gaz. C'est dans ce sens que nous attirons les investisseurs parce que nous avons pris une loi autorisant chaque investisseur à produire de l'énergie. Avant, c'était privé, c'était fermé. Maintenant, nous avons pris une loi depuis 2009 qui a ouvert l'opportunité à chaque opérateur de produire de l'énergie et que l'État est en mesure d'acheter l'énergie produite.
Et alors, 5 ans après, quel est le bilan? Est-ce qu'il y a déjà des investisseurs ou est-ce que justement vous êtes là pour en chercher de nouveaux?
Maintenant, les investisseurs se bousculent au Tchad parce que nous avons pas un seul, mais plusieurs qui sont intéressés. Certains sont intéressés à produire de l'énergie à base de fuel lourd et du gasoil. Il y a d'autres qui sont intéressés à produire de l'énergie à base de l'énergie solaire. Nous avons quelques sociétés, une société française qui est très intéressée, qui produira d'ici une année de l'énergie à base solaire pour 60 mégawatts.
Et comment vous avez réglé ces histoires de redevances? On a vu dans un de vos pays voisins, le Niger, des négociations très longues avec Areva concernant l'uranium, donc on reste quand même dans le domaine de l'énergie et des matières premières. Comment vous, est-ce que vous avez régulé ces redevances?
Pour la production du pétrole, nous faisons souvent le CPP, ça veut dire que contrat de production, de partage de production. Donc dès le début, nous avons une part dans la production, donc nous avons une vue sur tout ce qui se passe dans le domaine de la gestion et dans le domaine des investissements. Donc nous avons une vue sur la production du pétrole.
Et l'après-pétrole, puisqu'on dit que les ressources pétrolières du Tchad vont être puisées d'ici 20 à 30 ans?
Et surtout dans le domaine du développement de l'agriculture. Nous, le chef de l'État a mis énormément de l'argent dans le domaine de l'achat des tracteurs et de l'aménagement de plusieurs zones agricoles. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas seulement une vision pour le développement des matières premières, surtout les ressources naturelles, mais nous avons également le développement de l'élevage, de l'agriculture, pour que ça veut dire que tout cela fasse un boom pour le Tchad.
Alors, vous êtes là ici depuis quelques jours. Est-ce que vous avez pu avancer dans des négociations, peut-être conclure déjà des partenariats?
Nous avons vu dès le début, et même lors de notre réunion en juin 2014 en Éthiopie concernant Power Africa, nous avons remarqué que les États-Unis, ça veut dire que les investissements dans le domaine énergétique se dirigent surtout vers les pays anglophones. Ça veut dire que nous avons remarqué que les pays francophones sont oubliés et nous voulons que ceci soit résolu d'une façon rapide à ce que chacun de nous puisse en tirer bénéfice.
Amitali Muntai, conseiller aux mines, à l'énergie et au pétrole du Tchad. Si cette journée était dédiée aux PDG africains en Afrique francophone, ce sont plutôt les ministres qui étaient présents. Alma Oumarou, ministre du Commerce du Niger, a fait le déplacement.
Je crois que tous en Afrique, nous avons salué cette initiative qui est une première. Et avec une vision partagée de venir travailler avec l'Afrique, non pas de venir uniquement dans un cadre d'assistance, mais dans un cadre de partenariat et de respect mutuel. Et à ce titre, je crois que tous, au niveau de tous les États africains, nous avons salué cette importante rencontre. Et notre vœu le plus ardent, c'est que ça ne s'arrête pas au niveau des résolutions et des bonnes intentions. Les États-Unis l'ont prouvé déjà avec l'AGOA et ils se sont engagés, aussi bien au nouveau gouvernement, administration Obama, que nouveau Congrès, à renouveler et à améliorer l'AGOA pour les 15 prochaines années, c'est-à-dire à partir de septembre 2015, pour au moins 15 ans. Et notre vœu en Afrique, c'est que ça soit pour au moins 20 ans ou plus. apparemment, cette vision est partagée, cette volonté d'approfondir les relations américano-africaines est réaffirmée, d'autant plus qu'elle va dans les deux sens. C'est dans l'intérêt commun et de l'Afrique et des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis réalisent combien ils sont en retard en Afrique. Et la Chine, qui est une dernière venue en Afrique, aujourd'hui fait 2,5 fois plus d'affaires en Afrique, sinon plus dans certains endroits, avec les pays africains que les États-Unis, qui étaient là de longue date. Je crois que ce retard est également en train d'être creusé en défaveur de l'Europe. Donc je crois que tous les pays développés se disent que le continent du 21e siècle, c'est le continent africain. C'est là où nous avons la plus forte croissance, c'est là où tout est à faire ou à reprendre. Donc c'est dire que l'Afrique attend de tous ses partenaires qu'ils viennent nous aider, nous accompagner dans notre œuvre de redressement et de développement.
Alors cet après-midi est dédié aux PDG africains. Est-ce que vous êtes venu avec des PDG nigériens ?
Nous sommes venus avec des PDG nigériens qui sont là dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de la banque. Ils sont intéressés et ils voudraient voir comment nouer des relations d'affaires avec leurs partenaires américains et au-delà peut-être d'autres pays. Parce que également, l'objectif de cette rencontre et l'objectif de la coopération États-Unis-Afrique, c'est de promouvoir le commerce intra-africain qui est plutôt faible. Alors qu'il y a des possibilités, le président Obama l'a dit, souvent d'échanges entre nos États, des choses que nous avons à la frontière, donc à la porte de nos États, nous partons malheureusement de chercher très loin et à des coûts prohibitifs pour nos populations. Donc améliorer le commerce intra-africain et améliorer, renforcer les compétences, les capacités commerciales de l'Afrique pour mieux commercer avec tous les États du monde.
Nous retrouverons demain la suite de cette interview avec Alma Oumarou, le ministre du Commerce du Niger. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 101.9 FM à Agadez, au Niger, sur la radio Nomade. Nous retrouvons la dernière partie de l'entretien que le président du Sénégal, Macky Sall, a accordé au service français de la Voix de l'Amérique. Idrissa Sédoudia lui a demandé quelles actions étaient prises pour faire face à la menace djihadiste au Sahel.
Ce que nous faisons, c'est d'abord la solidarité entre États. Et nous travaillons au sein de la CDAO, au sein de l'Union africaine, et en partenariat avec la France, les États-Unis, l'Union européenne, et tous les autres États qui sont soucieux de la stabilité et de la paix dans le monde. Et nous essayons par les échanges d'informations à travers la surveillance des frontières d'avoir une maîtrise de l'information sur les personnes qui circulent et de pouvoir faire face en cas de nécessité aux menaces qui se posent à nos pays, qui sont des menaces nouvelles et qui sont des défis nouveaux par rapport à notre développement. Donc il faut malheureusement que nous intégrions ces nouveaux défis puisqu'ils sont aussi importants que ceux du développement.
Le président sénégalais Macky Sall. Et nous terminons l'émission par une rubrique santé. Depuis 2001, le Mali a atteint le seuil d'élimination de la lèpre fixé par l'Organisation mondiale de la santé à moins d'un cas pour 10 000 habitants. Malgré ce résultat, le cercle de Kieneba, dans la région de Kaï, reste une poche de résistance pour la lèpre, malgré le fait que les traitements soient gratuits, car la région est montagneuse, rendant difficiles les conditions d'accès aux centres de santé. Kassim Traoré.
Dans les districts sanitaires du cercle de Kieneba, la prévalence de la lèpre est toujours 1,88% des cas pour 10 000 habitants en 2013. Ce chiffre est loin du seuil d'élimination de la lèpre. Souleymane Koulibaly, médecin-chef adjoint du district sanitaire de Kieneba.
C'est un peu dû à la situation géographique d'abord de Kieneba. Kieneba est une zone vraiment montagneuse et d'accès vraiment très très difficile. Et l'accès de la population aux structures de santé pose réellement problème. Un deuxième aspect de la chose, c'est que dernièrement, on n'a plus de financement pour la lutte contre la lèpre. Donc, c'est des financements qui sont arrêtés depuis très très longtemps, alors qu'on a un problème de formation des agents de santé. Beaucoup sont partis, actuellement on a de nouveaux qui sont là, qui n'ont aucune notion par rapport au dépistage d'abord à la prise en charge de la lèpre.
À Kenyeba, aucune ONG n'est sur place pour faire face à la lèpre. À cela, il faut ajouter le manque de moyens pour les agents de santé pour atteindre les localités enclavées. La propagation de la lèpre est favorisée par les mauvaises conditions d'hygiène, plus la mauvaise perception de la maladie.
La lèpre n'est pas bien perçue dans nos communautés. Donc, ce n'est pas un motif réel de consultation. C'est vraiment au stade de séquelles, vraiment, où on a des conséquences graves que les gens se viennent au niveau des structures de santé pour se faire dépister.
Et pourtant, le traitement de la lèpre est gratuit. Mais face au manque de communication, les agents de santé se limitent au dépistage passif. Docteur Koulibaly.
Le dépistage est gratuit et la prise en charge également est gratuite. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est un dépistage passif. Alors que nous, à notre entendement, le dépistage passif en lui seul ne peut pas résoudre le problème. Il faut vraiment sortir, faire des dépistages de masse, des dépistages actifs vraiment pour atteindre le maximum de malades.
Seul le dépistage rapide facilite le traitement de la lèpre. Les populations de Kenyeba qui sont dans les localités enclavées ne bénéficient pas de ce dépistage rapide. Le cas de Kenyeba est une équation difficile à résoudre. Des malades coincés dans les montagnes, les personnels soignants en manque de moyens adéquats pour les atteindre. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Bamako, vous nous écoutez sur le 102 FM. Salle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Glenn Van Calio. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Bombino du Niger et son morceau Ténéré. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Salle Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.